Nous allons prendre un moment pour prier avant d'ouvrir la Bible ensemble. Seigneur, David priait en disant: Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Seigneur, nous aussi, nous voulons te demander d'ouvrir nos yeux maintenant, d'ouvrir les yeux de nos cœurs, les yeux de nos pensées, les yeux de notre intelligence, d'ouvrir tous nos yeux, Seigneur, afin que nous puissions pleinement, Seigneur, comprendre ta pensée et que nous puissions, Seigneur, nous laisser toucher, construire et continuer à grandir par ta parole. Seigneur, nous te demandons vraiment de nous envoyer puissamment dans chacun de nos cœurs ton esprit de lumière, ton esprit de vie, ton esprit de vérité pour nous conduire dans toute la vérité. Amen. Nous allons faire deux lectures, une première dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu 5, versets 1 à 12. Matthieu 5, versets 1 à 12. Donc, nous lisons l'Évangile. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La deuxième lecture dans le livre de l'Apocalypse. Chapitre 6. Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux, et il leur dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Nous sommes donc aujourd'hui en ce dimanche particulier de l'Église persécutée, un dimanche particulier pour l'Église et pour nous aujourd'hui. Et la dernière fois, pour ceux qui se souviennent, nous avions justement abordé la question des effets inattendus de l'Évangile. Pour rappel, nous avions dit que l'Évangile est une folie, l'Évangile divise et l'Évangile fait souffrir. Premièrement, l'Évangile est une folie pour le monde. L'Évangile est loin de ce que le monde a envie d'entendre. Le monde n'est pas intéressé d'entendre parler de l'Évangile. L'Évangile est un message qui n'a pas d'intérêt. C'est une folie, c'est une bêtise pour le monde. L'Évangile divise. L'Évangile crée une opposition entre les gens. L'Évangile n'est pas un sujet neutre dans la vie des humains. C'est un sujet qui oppose les gens les uns avec les autres. Ce n'est pas un message qui unifie tout le monde. Et vous avez vu, vous vous rappelez qu'on avait lu ce verset qui dit que même dans un foyer, les gens vont s'opposer les uns aux autres par rapport à Jésus, par rapport à l'évangile. Parce que une fois qu'on se met en position pour Jésus, ça crée aussi, même dans nos relations les plus intimes, tout un ensemble de problèmes. Et puis troisièmement, nous avions vu que l'évangile fait souffrir. Les croyants qui portent l'évangile, les croyants qui vivent l'évangile, les croyants qui proclament l'évangile souffrent à cause de l'évangile. Et c'est justement cette dernière caractéristique, l'évangile fait souffrir, qui va retenir notre attention aujourd'hui, en ce jour de l'Église persécutée, puisque nous pensons à ceux et celles qui aujourd'hui souffrent à cause de leur foi, vivent la souffrance qui est liée à l'évangile. L'évangile fait souffrir ceux qui le portent. Et parfois, cette souffrance peut aller jusqu'à la persécution, et la persécution peut aller jusqu'à la mort. Il y a un combat contre Jésus, il y a un combat contre l'évangile, il y a un combat contre le plan de Dieu. Et justement, ce texte nous le montre très clairement, cette question du combat fort et puissant contre l'évangile, contre Christ, contre la vérité. Mais un combat qui ne se cristallise pas seulement sur l'évangile ou sur le message de l'évangile, mais aussi sur tous ceux qui affirment qu'ils appartiennent à Christ. Sur tous ceux qui affirment que pour eux Jésus est le Messie, que pour eux Jésus est le Fils de Dieu, que pour eux Jésus est le Sauveur. Sur toutes les personnes qui revendiquent leur appartenance à Jésus, la persécution peut aussi se matérialiser. Et nous voyons dans le texte de la Bible, notamment dans le texte de Apocalypse qu'on vient de lire là maintenant, nous voyons que Jean, c'est l'apôtre Jean, voit l'agneau Jésus, qui ouvre le cinquième sceau, hein, si vous avez lu dans le texte. Et lorsqu'il ouvre le cinquième sceau, il voit, dans cette vision, il voit sous l'autel les âmes de ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu, et à cause du témoignage qu'ils ont rendu, ceux qu'on appelle les martyrs. Il voit l'âme des martyrs sous l'autel, et ces martyrs sont là sous l'autel, leurs âmes sont là sous l'autel, et il entend qu'ils sont en train de demander justice. Et comment est-ce qu'ils demandent justice? Au travers d'une expression que nous avons lue tout à l'heure, jusque à quand? Tout comme David disait, jusque à quand mes ennemis gagneront, jusque à quand, eux aussi, ils disent, jusque à quand? Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre salut sur les habitants de la terre? Et ensuite, une robe blanche leur est donnée. En fait, l'autel dont il est question ici, c'est l'autel céleste, c'est l'autel du tabernacle céleste. On sait que le tabernacle qu'il y avait sur terre, que les enfants d'Israël ont fait, pendant qu'ils étaient en pérégrination, n'était qu'une image du tabernacle éternel, du tabernacle céleste, dans lequel il y a cet autel céleste. Et sous l'autel, il voit les âmes de ceux qui ont été immolés à cause de la parole de Dieu et de leur témoignage. Il voit ces âmes qui ont été tuées, qui ont été massacrées, dont le sang a coulé à cause de leur témoignage. Leur sang a été répandu à cause de la parole de Dieu. Leur sang a été répandu à cause de leur foi. Et en réalité, cette position sous l'autel, pour nous, comme ça, quand on lit, ça ne veut rien dire, mais selon beaucoup, en fait, c'est une position d'honneur. C'est une position d'honneur, c'est pas juste qu'ils étaient là comme ça. Être sous l'autel, c'est être sous le poids de la gloire de Dieu, sous le poids de la présence de Dieu. Et donc ces gens qui ont été immolés pour leur foi, qui ont été tués pour leur foi, sont comme des sacrifices qui ont été offerts à Dieu, des sacrifices dont l'odeur est agréable à Dieu. Alors bien évidemment que ça nous choque quand on entend ça aujourd'hui, bien évidemment que ça n'a pas l'air réjouissant, ça n'a pas l'air grandiloquent, mais effectivement, ils sont là sur l'autel comme des vies qui ont été sacrifiées pour le nom de Jésus, pour le nom de Jésus, pour la gloire de Jésus. Et en réalité, quand on lit l'Apocalypse, vous savez certainement que l'Apocalypse tout entière est écrite à un temps de persécution. C'est un moment où le peuple de Dieu est fortement persécuté. Et Jean lui-même écrit l'Apocalypse alors qu'il est dans cette île de Patmos, où il est justement à cause de la persécution. Donc c'est un temps où l'Église était extrêmement persécutée. Apocalypse 1,9, c'est Jean qui dit « Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole et du témoignage de Jésus. » Les apôtres eux-mêmes ont vécu, ont subi cette persécution. Et Jean est exilé dans cette île de Patmos et il parle à ses frères et sœurs qui, eux aussi, dans le monde, sont en train d'être persécutés de toutes sortes de manières. Et Jean leur indique qu'il a part à la même tribulation qu'eux, à la même souffrance qu'eux, à cause de la parole et à cause du témoignage de Jésus. Parfois, certains appellent l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, certains l'appellent le livre de l'Église opprimée, de l'Église persécutée, tellement cette référence revient à grande reprise. Et comme nous l'avons vu la dernière fois, la persécution, la haine des gens vis-à-vis des chrétiens, vis-à-vis de ceux qui appartiennent à Jésus, n'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une nouvelle qu'on apprend hier matin. C'est Jésus lui-même sur terre qui a prévenu son peuple en disant notamment, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Jésus disait aussi, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jésus nous a annoncé qu'il n'était pas un personnage neutre dans le monde, mais qu'il attirait la haine. Alors aujourd'hui, évidemment, quand on y pense, on se dit, ben, moi, si aujourd'hui je parle à mon collègue, ou si j'affirme Jésus, si je parle du nom de Jésus, ou si j'explique ce que Jésus est, bah, ça va rien faire, les gens vont pas m'en vouloir. Hein, si je dis juste, oui, Jésus est né dans une crèche à Noël, les gens, ils s'en fichent, oui, si tu crois ça, tant mieux pour toi. Mais quand on en vient à parler de qui est Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il attend, de la réalité de qui est Jésus, du fond du message de l'Évangile, là on se rend compte que ça déchaîne la haine. Quand on en arrive à proclamer la profondeur du message de l'Évangile, on se rend compte que ce n'est pas un message neutre, ce n'est pas un message qui ne fait rien, c'est un message qui peut attirer beaucoup de haine. Jésus a dit aussi, je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je vous en ai parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Jésus a prévenu son peuple que la persécution viendrait. Alors pourquoi tant de haine envers Christ et envers le témoignage de Christ? Premièrement parce que Jésus est cette lumière qui dérange le monde des ténèbres. Jésus met en difficulté les ténèbres. Le monde ne veut pas de la lumière de Christ parce que la lumière a pour effet de mettre en évidence ou de mettre en évidence les œuvres ténébreuses. Et la Bible nous dit que la lumière est venue dans le monde, mais que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Comme les œuvres des pécheurs que nous sommes sont mauvaises, comme notre vie est mauvaise, comme elle ne plaît pas à Dieu, lorsque la lumière de Jésus paraît, nous sommes mis à découvert et notre péché, notre faute, nos œuvres mauvaises sont mises en évidence et nous ne voulons pas de la lumière. Je ne veux pas en entendre, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas entendre ce message qui me parle de mes péchés. Je ne veux pas entendre ce message qui me dit que je dois changer de vie. Je ne veux pas l'entendre. Le texte dit aussi, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière. Parce qu'en réalité, la lumière fait disparaître les ténèbres. Il peut y avoir les plus grandes ténèbres. Une fois que la lumière paraît, les ténèbres disparaissent. Les ténèbres ne veulent pas de la lumière. Jésus a dit aussi, le monde ne peut voir, moi il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Jésus rend le témoignage que les œuvres du monde sont mauvaises. Voilà pourquoi il est haï. L'Évangile nous dit plein de choses que le monde ne veut pas entendre. L'évangile nous parle de la nécessité de se repentir de ses péchés et de changer de vie. Ça n'intéresse personne, ça. L'évangile nous parle du fait qu'il y a un seul chemin de salut, Jésus. Hier, il y avait une vidéo de Harry Roselmack, si vous voyez un peu qui c'est, le noir qui présente 7 à 8. Vous voyez pas qui c'est? Bah oui, Aurélien au moins. Heureusement que tu es là, Aurélien, parce que les autres ici, ils regardent jamais la télé. Et alors, il disait dans sa vidéo, il disait, vous savez, pour moi, les religions, c'est comme des opérateurs téléphoniques. On peut avoir plusieurs opérateurs téléphoniques, ça ne compte pas du moment qu'on téléphone à quelqu'un. Et donc, il dit, moi, mes parents, quand je leur téléphone, ils s'occupent pas de savoir si je téléphone avec Baze ou si je téléphone avec Proximus, si je téléphone avec ça. Ce qui compte, c'est que je leur téléphone. Donc, en fait, toutes les religions mènent à Dieu. Toutes les religions nous permettent d'avoir une communication avec Dieu. Bah, si tu es bouddhiste, bah, cette religion-là avec laquelle tu téléphones. Si tu es islam, si tu es musulman, tu téléphones avec une autre. Donc en fait, on peut prendre l'opérateur téléphonique qu'on veut du moment que finalement on en arrive à un seul Dieu. Eh bien, l'évangile dit non à ça. L'évangile dit que c'est un mensonge, ça, dit que c'est une erreur, ça, qu'il n'y a qu'un seul chemin vers Dieu, qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène à Dieu. L'évangile nous dit la perdition éternelle pour ceux qui ne croient pas. Ah, bien sûr que si vous dites à vos collègues que Jésus est né dans une crèche, ils vont rien dire. Ben, ils sont, oui, ben, si tu le crois. Mais si vous leur dites, tu sais que tu vas aller en enfer pour l'éternité si jamais tu ne crois pas en Jésus, ah, là, ça provoque la haine. L'évangile met en évidence que beaucoup de choses que nous aimons déplaisent à Dieu. L'évangile met en évidence que ce que nous apprécions en tant qu'humains, cet amour que nous avons de l'argent, cet amour que nous avons du luxe, cet amour que nous avons de la débauche, c'est cet amour-là que cet amour-là déplaît à Dieu. L'évangile nous parle du jugement dernier. Mais les gens qui sont là aujourd'hui dans leur petite maison un dimanche matin en train de faire la grasse matinée, quand on leur parle du jugement dernier, ils n'ont pas envie de savoir ce genre de choses. L'évangile est un message qui divise. Et la persécution aussi est une arme de Satan pour affaiblir l'Église. Dans Apocalypse 2, 10, Jésus dit à son Église, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Ne crains pas, le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison. Ne croyons pas que la persécution, c'est juste une œuvre humaine. Il y a l'action du diable derrière qui pousse les hommes et les femmes à persécuter les croyants. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Alors, dans le deuxième texte que nous avons lu, le texte des Béatitudes, on sait que ce texte est un texte dans lequel Jésus renverse en fait les valeurs du monde et il présente les valeurs du royaume de Dieu. Il est en train de nous expliquer que dans le royaume, les valeurs sont tout à fait différentes que dans notre monde. Et donc vous connaissez ce beau texte heureux, heureux, du texte des Béatitudes dans lequel Jésus nous explique notamment que le bonheur n'est pas pour les forts, le bonheur n'est pas pour ceux qui dominent les autres, le bonheur n'est pas pour ceux qui ont tout, le bonheur n'est pas pour ceux qui ont un cœur dur, le bonheur n'est pas pour ceux qui aiment les conflits, mais le bonheur est pour ceux qui reconnaissent leurs besoins de Dieu, qui reconnaissent combien ils ont besoin de la grâce de Dieu. Le bonheur est pour ceux qui sont doux, qui se soumettent à la volonté de Dieu, qui font grâce aux autres. Le bonheur est pour ceux qui font miséricorde. Le bonheur est pour ceux qui ont un cœur pur. Le bonheur est pour ceux qui créent la paix, qui sont des artisans de paix. Voilà toutes les béatitudes de Jésus. Hein, il nous enseigne finalement, les gars. Ne pensez pas comme le monde. Dans le royaume, c'est différent. Dans le royaume, ce qui compte, c'est la pureté de votre cœur. Dans le royaume, ce qui compte, c'est que vous sentiez votre besoin de Dieu. Et alors, dans toutes ces béatitudes, elles sont toutes très bien. Et Jésus termine par ce truc qui n'a absolument rien à voir avec le reste, dont on ne comprend même pas ce que ça vient faire là. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera à cause de mon nom. Heureux serez-vous. Les premières béatitudes semblent nous plaire, mais celles qui terminent sont étonnante. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés pour la justice. Jésus nous a non seulement prévenu que la persécution viendrait, mais il nous a aussi parlé de la persécution comme un sujet de joie pour le croyant. Encore une fois, pour nous montrer que dans le royaume de Dieu, les choses n'ont rien à voir avec le monde. Les valeurs n'ont rien à voir. Dans le royaume de Dieu, éviter la souffrance n'est pas la chose la plus importante. Dans le royaume de Dieu, on peut souffrir et s'en trouver heureux. Des chrétiens souffriront, persécutés, à cause de leur fidélité à Jésus, à cause de leur témoignage envers Jésus, à cause de leur appartenance à Jésus, mais aussi à cause des positions qu'ils prendront pour obéir à Jésus, parce qu'il leur dit, heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés pour la justice, lorsque vous serez persécutés pour avoir agi correctement, pour vous être bien comportés, pour avoir obéi à ma parole, heureux serez-vous. On comprend que la persécution ou la souffrance est quelque chose d'en dehors des valeurs du monde. Le but du monde, c'est vivre la vie la plus heureuse avec le moins de souffrance possible. Alors que dans le royaume de Dieu, la souffrance peut avoir toute sa place lorsqu'il s'agit de défendre le message le plus essentiel et de parler de celui qui est l'unique sauveur du monde. En réalité, on lit dans ce texte que la persécution peut prendre différentes formes. Jésus parle de trois formes de persécution. Il parle des outrages, lorsqu'on vous outragera. Être insulté, être injurié, être moqué à cause de notre foi. Ça peut prendre tant de formes. Être moqué par des mots, être moqué par des gestes, être moqué par des écrits. Le fait que l'on écrive des insultes sur nos maisons, que l'on se moque de nos comportements. La moquerie est quelque chose que connaissent les personnes qui ont déjà parlé du fait qu'ils sont chrétiens. Tant qu'on ne le dit pas, bon voilà, on ne risque rien, mais une fois qu'on dit qu'on est chrétien, tout de suite, on peut connaître la moquerie. Alors ça, voilà, il peut y avoir les moqueries gentilles. Ah oui, mais c'est Monsieur le curé, hein, lui, c'est le petit chrétien, c'est le copain de Jésus, hein, lui. Bon, ça c'est gentil, mais il peut y avoir des moqueries bien plus fortes, bien plus méchantes. Vous savez que parfois des élèves de secondaire témoignent de comment certains profs s'en prennent à eux parce qu'ils sont croyants. Même des jeunes qui affirment leur foi témoignent de comment ils sont mal vus par leurs professeurs à cause de leur foi. Donc premièrement les outrages, mais aussi différents types de persécutions en soi, être frappé à cause de sa foi, être emprisonné, être agressé, voir sa famille être kidnappée, voir les siens être tués à cause de notre foi. La persécution peut prendre des formes comme des interdictions religieuses, interdiction de se rassembler, interdiction de se convertir, interdiction de prier. Interdiction d'avoir des Bibles, église fermée, église brûlée. Et Jésus parle aussi d'une autre forme de persécution, la calomnie. Heureux serez-vous lorsqu'on dira toutes sortes de mal de vous, lorsqu'on invente au sujet des croyants des mensonges pour les mettre en difficulté. Oui, pour Jésus, tout cela peut être une occasion de joie. Alors est-ce que Jésus est en train de nous dire qu'il aime nous voir souffrir? Est-ce que Jésus est en train de nous dire qu'il voudrait que nous aimions souffrir? Est-ce que Jésus est en train de nous dire, ben voilà, vous devez aimer la souffrance, ça doit vous plaire de souffrir? Non, Jésus est en train de nous enseigner que le royaume de Dieu est tellement vrai, tellement réel, tellement valeureux, qu'il mérite que nous supportions la souffrance pour lui. Frères et sœurs, un jour ce monde disparaîtra, ces réalités disparaîtront. Le monde dans lequel nous sommes n'existera plus et restera seulement le royaume de Dieu, le royaume éternel de Dieu. Ce royaume est une réalité. C'est une réalité qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas voir, mais c'est une réalité. Et un jour, tout ce que nous voyons disparaîtra et demeurera ce que la Bible appelle le royaume inébranlable. Et pour ce royaume inébranlable, le croyant peut supporter la souffrance. Pour ce royaume inébranlable, le croyant peut supporter d'être méprisé parce qu'il sait, il a la foi, il a la conviction que ce royaume viendra. Jésus nous enseigne dans ce texte que la persécution aussi nous associe aux prophètes qui dans le passé ont vécu et qui ont eux-mêmes été persécutés. Et à Christ lui-même qui a été persécuté. Dans l'Ancien Testament, les prophètes qui annonçaient la vérité qui disait la vérité, était persécuté. Le monde n'aime pas la vérité. Le monde préfère la sécurité du mensonge du diable. Et lorsque nous disons la vérité, cela dérange et nous pouvons subir le rejet, la détestation, les humiliations, la violence. La persécution est un signe que nous portons réellement la parole de vie et que nous sommes fidèles à Christ. La persécution est un signe que nous sommes en train d'annoncer. Puisque nous subissons la même persécution de Jésus, cela signifie que nous sommes en train d'être fidèles à ce que Jésus a dit et que nous sommes fidèles au message de Jésus. Comment serait-il possible que nous soyons les représentants d'un Jésus qui a été méprisé sans nous-mêmes être méprisés? Comment serait-il possible que le message de Jésus qui a été détesté ne nous amène pas nous aussi à être détestés pour le message de Jésus que nous annonçons? Raison pour laquelle il dit « Heureux serez-vous » parce que lorsque vous serez persécutés à cause de la justice, ça sera le signe que vous êtes en train d'être fidèles à ma parole, que vous êtes en train de proclamer la vérité, que vous êtes en train d'être la lumière que vous êtes appelés à être. Mais aussi, le texte nous dit, et je sais que c'est très perturbant pour nous, mais le texte nous dit que la persécution est associée à de grandes récompenses dans les cieux. Raison pour laquelle on voit les âmes des martyrs sous l'autel, dans cette position d'honneur. Dieu réserve aux personnes qui auront subi la persécution des récompenses particulières à cause de leur vie. Alors, ils ne vont pas rentrer au ciel à cause de leur persécution. Ils rentreront au ciel à cause de leur foi. Mais ils recevront des récompenses particulières pour avoir subi ce qu'ils ont subi. La joie et l'allégresse dans laquelle peuvent être ceux qui sont persécutés résultent donc du fait qu'ils appartiennent à Jésus, qu'ils savent pourquoi ils souffrent et qu'ils sont en train d'annoncer la parole de vérité. Il est dit dans 1 Pierre 4, 12 à 19, c'est un texte que nous avons lu, mais qui est dans le même sens, il est dit ceci. 1 Pierre 4, 12 à 19, il est dit, Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est pour nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. L'apôtre Pierre se situe dans la même ligne de Jésus et il nous enseigne plusieurs choses. Il nous enseigne que la persécution ne doit pas nous surprendre, que c'est une chose normale pour le croyant. Il nous enseigne que la persécution peut nous réjouir, car elle signifie que nous prenons part aux souffrances de Christ lui-même. Nous sommes associés aux souffrances que Christ lui-même a vécues. Et dans la Bible, du coup, la persécution, c'est une dignité, parce que le même sort que Jésus, nous y sommes associés. L'apôtre précise que c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Nous ne souffrons pas parce que nous avons envie de souffrir, nous ne souffrons pas parce que ça nous plaît, nous souffrons par motif de conscience devant Dieu, pour être fidèles au Dieu qui nous a sauvés, pour être fidèles à la vérité. La persécution pour nous réjouir en ce qu'elle nous vaudra gloire et allégresse lorsque Jésus apparaîtra. Plus haut dans l'épître, l'apôtre dit qu'ils ont à souffrir pour un peu de temps. Nous perdons complètement de ça de vue, nous, mais en réalité, nos souffrances ne sont rien, comme dit le texte, par rapport à la gloire à venir. Par rapport à la gloire éternelle qui sera manifestée, nos petites souffrances que nous vivons ne sont rien du tout. Et ainsi, les croyants, dans la Bible, se considéraient comme bienheureux d'être des personnes attaquées pour leur foi. C'est ce que nous voyons, Actes 5, 41. Alors là, c'est le texte où les apôtres sont présentés devant le Sanhédrin et qu'ils sont battus de verges. D'accord? Donc ils sont flagellés. Et à la fin, Après avoir été flagellés, Actes 5, 41 nous dit, les apôtres se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ça nous met au défi, hein, ça, on se dit, mais moi jamais je dirais ça. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient sauvés. Ils savaient qu'ils avaient mis leur confiance en Jésus et le message et la personne de Jésus étaient tellement importants pour eux qu'ils se réjouissaient d'avoir été sauvés, d'avoir été persécutés à cause de son nom. Et le texte continue, le verset suivant nous dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Non seulement ils étaient heureux d'avoir vécu ça, mais en plus ils continuaient d'annoncer l'évangile, même alors que les gens ne voulaient plus l'entendre et qu'ils étaient interdits de le faire. La persécution est le signe de notre appartenance à Christ et c'est la marque de l'Esprit Saint sur nous. Le croyant, dit le texte, toujours le texte que nous avons lu de 1 Pierre, le croyant doit être persécuté pour la justice. Il dit que nous n'avons pas à être persécutés pour nous être mal comportés, pour avoir menti, pour avoir volé ou autre, mais nous pouvons accepter d'être persécutés pour la justice, pour avoir obéi à Jésus, pour nous être montrés fidèles à Jésus. Alors nous aujourd'hui, qui sommes là et qui ne subissons pas beaucoup de persécutions à cause de notre foi, que devons-nous tirer de tout cela? Parce que c'est bien vrai, finalement, c'est des réalités qui sont tellement loin de nous, ça ne veut rien dire pour nous. Être interdit de prier, être interdit d'aller à l'église, ce n'est rien pour nous. Que devons-nous tirer de tout cela? Premièrement, si le message de l'Évangile est tellement attaqué, c'est qu'il témoigne d'un grand royaume et d'une réalité éternelle que nous ne devons pas perdre de vue. Si ce message provoque tant d'opposition, tant de haine, tant de difficultés, c'est que c'est un message extraordinaire. Si le message de l'Évangile est attaqué, c'est parce que c'est un message fort et puissant. C'est un message de salut qui ouvre la porte à quiconque croit. C'est un message de vérité dans un monde de mensonges. C'est un message de pardon pour que quiconque est sous la colère de Dieu obtienne le pardon. C'est un message de transformation. Lorsqu'un homme confie sa vie en Christ, sa vie peut être transformée. C'est un message d'anticipation. L'Évangile nous annonce les choses qui arrivent. L'Évangile nous ouvre les yeux sur les temps de la fin. L'Évangile trace pour nous la réalité de ce qui vient. Ce message de l'Évangile est un message glorieux. Ce témoignage de l'Évangile est un témoignage puissant, c'est un témoignage glorieux, un témoignage de la valeur, qui a de la valeur. Et c'est pour ça que c'est un message qui provoque autant d'opposition. Nous pouvons être heureux d'être les dépositaires de ce grand message, de ce vrai message. Il s'agit d'un message qui annonce un royaume éternel, un royaume inébranlable, un royaume certain qui vient. Ainsi, des hommes et des femmes sont prêts à souffrir à cause de ce message, à cause de ce royaume. Et ils sont prêts à accepter de telles souffrances parce qu'ils ont reconnu la beauté du nom de Jésus. Ils refusent de renier leur foi parce qu'ils ont découvert la beauté, la gloire, la grandeur du nom de Jésus. Les apôtres étaient honorés, nous l'avons lu, d'avoir souffert à cause de Jésus, tellement le nom de Jésus était beau pour eux. Ce nom qui est le plus beau des noms. Ce Jésus qui est merveilleux. Ce Jésus qui est merveilleux. Ce Jésus qui est le sauveur du monde. Ce Jésus qui est le Fils de Dieu. Ce Jésus qui est le Messie annoncé par les prophètes. Ce Jésus qui est le prince de la paix. Ce Jésus qui est l'agneau de Dieu. Ce Jésus qui est la porte vers la vie éternelle, ce Jésus qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ils avaient découvert la beauté et la gloire du nom de Jésus. Et à cause de cela, ils étaient prêts à tout vivre et ils refusaient de renoncer à ce nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tout nom, dit la Bible, et le nom devant qui tout genou fléchira un jour. Quel que soit ce que nous vivons actuellement, un jour, tous les genoux fléchiront devant le nom de Jésus. Jésus, C'est le plus beau nom. Merveilleux Sauveur, Seigneur de gloire, Emmanuel, Dieu est avec nous, source de joie, parole de vie. Jésus, c'est le plus beau nom. Nous chantons aussi dans les ailes de la foi, le nom de Jésus est si doux. Le nom de Jésus est si doux. De Dieu désarmant le courroux, il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Il est tellement précieux, Jésus, notre Sauveur, notre Libérateur, le seul et l'unique. Il est tellement précieux pour nous. Le nom de Jésus, c'est le plus beau des noms, c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui libère. C'est le nom qui transforme, c'est le nom qui change des vies, c'est le nom qui nous unit. C'est un nom éternel. Et rappelez-vous, la dernière fois, lorsque nous parlions de comment Paul justifiait la foi qu'il avait et le fait qu'il souffrait pour l'Évangile. Rappelez-vous de ce qu'il disait pour justifier qu'il souffrait pour l'Évangile. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Est-ce que cette parole pourrait être aussi la nôtre? Je sais en qui j'ai cru. On raconte dans la patristique, c'est-à-dire dans l'histoire des premiers temps de l'Église, le martyre de Polycarpe. Polycarpe ou Saint Polycarpe, comme d'autres l'appellent. C'était l'évêque de Smyrne, c'était un serviteur de Dieu, un homme dont on dit qu'il avait une sainteté extraordinaire. Et Polycarpe est amené dans une grande foule. Alors normalement, il est censé être tué par des fauves, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils étaient tués. Devant une grande foule, on emmenait les fauves et ils étaient tués comme ça. Et là, finalement, ben, il y a un problème, c'est pas l'heure, donc les fauves sont plus là, donc ils vont le tuer autrement. Et alors, on demande à Polycarpe d'abandonner sa foi en Jésus pour César, de dire que César est Seigneur et pas Jésus est Seigneur. Et alors, Polycarpe répond: Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, en feignant d'ignorer qui je suis, écoute-le donc une fois, une bonne fois. Je suis chrétien. Voilà 86 ans que je le sers et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je insulter mon roi et mon sauveur? Je suis chrétien. Comment pourrais-je insulter ainsi mon roi et mon sauveur? Des hommes qui avaient découvert la beauté du nom de Jésus. Et peut-être que ça peut nous interroger aussi de se dire, est-ce que j'ai découvert la beauté du nom de Jésus dans ma vie? Je sais en qui j'ai cru, et finalement, Polycarpe va être brûlé vif par un assemblage que vont faire les gens. Il va être brûlé vif, mais son corps ne va pas brûler, raconte la légende, comme il faut. Et donc, ils vont l'achever avec des marteaux qu'ils vont mettre sur lui. Premièrement, la beauté du nom de Jésus. Deuxièmement, tout cela nous enseigne, nous aussi, à persévérer jusqu'au bout. Vous serez haïs de tous, dit Jésus, à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes invités à persévérer jusqu'au bout, à persévérer en étant fidèles à Jésus, mais aussi à persévérer en annonçant la parole de Jésus, en bâtissant son royaume, en servant son Église. Et puis troisièmement, tout cela nous enseigne à profiter. Jésus a dit que nous devons travailler tant qu'il fait jour, parce que la nuit vient où personne ne peut travailler. Ne croyons pas que la liberté que nous avons est une liberté éternelle. Ne croyons pas que ce sera toujours ainsi, mais profitons tant qu'il fait jour. Profitons tant que nous avons toute notre liberté pour annoncer l'évangile de Jésus. Rendez-vous compte que Rose a eu contact avec l'échevin qui dit qu'on ne peut pas mettre un stand sur le marché, mais que l'on peut sans difficulté interpeller des gens dans le marché. Rendez-vous compte quelle liberté nous avons de pouvoir aller sur un marché public parler de Jésus. Profitons de cette liberté. Profitons de cette liberté tant qu'elle nous est donnée. Alors, en ce jour de l'Église persécutée, nous voulons penser à tous nos frères et sœurs qui souffrent et communier avec eux en esprit. Et nous voulons aussi garder à l'esprit que nous sommes tous des potentiellement persécutés. Armons-nous dans cette pensée en faisant confiance au Seigneur qui nous aime. Amen. Nous allons chanter maintenant.